L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée géographique. Cette semaine, le voyage sera à nouveau le fil rouge de cette chronique. Il ne s'agira pas de vous faire découvrir une nouvelle destination, mais plutôt d'évoquer l'envers du décor. Le développement et la démocratisation du tourisme ont permis à un nombre toujours plus grand de personnes de partir à la découverte de nouveaux horizons. En soi, cela est une excellente nouvelle si l'on se place du point de vue culturel. Néanmoins, un afflux massif de personnes peut avoir des impacts considérables sur les écosystèmes et les populations locales. L'activité touristique draine une manne économique conséquente et il peut être tentant pour des pouvoirs locaux d'ouvrir grand les portes de leur territoire sans se préoccuper des impacts. Des Ramblas de Barcelone au Machu Picchu, en passant par les plages paradisiaques de Thaïlande, je vous amène découvrir la face cachée de l'activité touristique. Découvrir le monde, oui, mais à quel prix? C'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Et tout d'abord, le succès des capitales européennes. Depuis plus d'une dizaine d'années, les capitales européennes voient leur fréquentation touristique croître régulièrement. Ce phénomène s'explique par l'arrivée des compagnies low cost et le développement de nouveaux acteurs de l'hébergement comme Airbnb qui permettent de se loger à des prix moins élevés que dans l'hôtellerie traditionnelle. La conjonction de ces deux facteurs peut entraîner une surfréquentation touristique. Amsterdam, Barcelone, Lisbonne et Venise font partie des villes européennes les plus concernées par les conséquences du tourisme de masse. Si le tourisme peut avoir des impacts positifs, comme la rentrée de devises, la création d'emplois ou le renforcement de la notoriété d'une ville ou d'un pays, il comprend aussi une face plus obscure. La popularité d'une ville entraîne une augmentation, voire une flambée des prix de l'immobilier. Dans les quartiers les plus modestes, les populations n'ont plus les moyens de se loger et doivent s'éloigner vers les couronnes périphériques. Elles laissent ainsi la place à des populations aisées ou à des locations touristiques. Ce phénomène est plus connu sous le nom de gentrification, qui désigne le phénomène d'appropriation d'un quartier populaire ou défavorisé par une population plus riche. À Lisbonne, le quartier historique de l'Alfama voit le nombre de Lisboètes disparaître graduellement. Les propriétaires préfèrent louer leur logement à des touristes plutôt qu'à des résidents permanents, car cela permet de pratiquer des tarifs plus élevés. Des tensions commencent à apparaître au sein de la population lisboète entre les pros et les anti-touristes. Des banderoles commencent à apparaître également sur les façades pour fustiger le poids de l'activité touristique, à l'instar de ce qui se fait à Barcelone depuis plus d'une dizaine d'années. À Venise, les Vénitiens aussi se désolent de voir des flux de touristes arpenter les rues leurs valises à la main. Les Vénitiens « historiques » entre guillemets, quittent leur ville d'origine pour fuir l'invasion touristique. Le risque est grand de voir la cité des Doges perdre son âme et de ne devenir qu'un vaste parc d'attractions pour touristes. L'an dernier, je me suis rendu pour la seconde fois à Venise. Même si je reconnais qu'il y avait du monde, j'ai été rassuré de constater qu'en s'éloignant de la place Saint-Marc, il est encore possible d'arpenter des quartiers typiques, encore peuplés de Vénitiens. La fragilisation des paysages naturels et historiques. Si le tourisme a des impacts sociaux et sociétaux, il peut également avoir de graves conséquences sur les écosystèmes. L'un des exemples les plus récents est Maya Bay, sur l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande, où a été tourné le film La Plage, avec Leonardo DiCaprio et Virginie Ledoyen. Cette plage paradisiaque, qui accueillait plus de 5000 visiteurs par jour, a subi une érosion sévère. Les récifs coralliens ont été endommagés par la pollution des bateaux à moteur. Aujourd'hui, l'accès au site est restreint. À Malte, sur l'île de Gozo, c'est l'Azure Windows qui a fait les frais de sa popularité. Cette arche naturelle, faite de calcaire, a servi de lieu de tournage à la série Game of Thrones, plus précisément pour le mariage entre Daenerys et Khal Drogo. Malheureusement, cette formation naturelle s'est effondrée le 8 mars 2017. Il semblerait que la présence des équipes de tournage ait contribué à la fragilisation de cette arche calcaire. Un autre exemple qui me vient à l'esprit est la ville de Platanias, en Crète. Pour l'avoir connue au début des années 1990, Il s'agissait d'un tranquille village de pêcheurs, où l'on ne se battait pas pour poser sa serviette sur la plage. Les glaces s'achetaient dans une petite épicerie, qui avait un air de caverne d'Ali Baba. J'ai eu l'occasion d'y revenir en 2005, et quel ne fut pas mon désarroi. Le front de mer était entièrement bétonné, avec notamment un hôtel-club et des colonnades doriques en carton-pâte. Un décor de mauvais goût ayant défiguré ce village si paisible. Ce fut un bien désagréable souvenir et une grande déception. L'Everest, embouteillage au sommet. Une photographie prise récemment au sommet de l'Everest a fait polémique. Elle représente une file d'alpinistes, alignés à la queue leu-leu, qui attendent de pouvoir accéder au sommet, afin d'immortaliser le moment qui clôt cette redoutable ascension. Ce cliché traduit l'engouement pour l'ascension de l'Everest, mais aussi les dérives qui en découlent. Les mois d'avril et de mai sont les plus propices pour réaliser l'ascension, ce qui explique l'afflux massif d'alpinistes ces dernières semaines. Cette année, les autorités népalaises ont délivré un nombre record de permis qui est le sésame indispensable pour tenter l'ascension de l'Everest. Les permis sont vendus à prix d'or, ce qui représente une manne économique importante pour le Népal. Le nombre croissant d'alpinistes et des sherpas qui les accompagnent a des conséquences environnementales. Les pentes de l'Everest regorgent de déchets en tout genre, comme des bouteilles d'oxygène. Des campagnes de nettoyage sont d'ailleurs régulièrement organisées. John Krakauer, écrivain américain, auteur du best-seller Into the Wild, raconte dans son ouvrage « Tragédie à l'Everest » les dérives des expéditions commerciales dans les années 1990. Le 10 mai 1996, 8 alpinistes perdent la vie au cours d'une ascension catastrophique, dont deux himalayistes chevronnés, Rob Hall et Scott Fisher. En 2019, 11 alpinistes ont déjà perdu la vie. La faute à une surfréquentation et un manque de préparation notoire de nombreux alpinistes. Les autorités népalaises délivrent des permis sans se soucier d'examiner le niveau physique et technique des personnes faisant une demande de permis. Le Machu Picchu, un futur site en péril. Le Machu Picchu, ancienne cité inca du 15e siècle, est le site archéologique le plus célèbre du Pérou. Les clichés de cette ancienne forteresse font partie des incontournables pour toute personne se rendant au Pérou. Actuellement, un projet de construction d'aéroport est en cours, à une trentaine de kilomètres de la ville de Cusco, qui est l'ancienne capitale historique de l'Empire Inca. L'objectif est de désengorger l'aéroport actuel de Cusco et de mieux desservir le site du Machu Picchu, notamment en provenance d'autres pays d'Amérique du Sud. La hausse du trafic aérien dans la région pourrait être à l'origine de pollution atmosphérique qui serait piégée par la vallée et les hautes montagnes. Par ailleurs, il existe un risque d'assèchement du lac Piure qui assure l'approvisionnement en eau de la moitié de la population de Cusco. En ce qui concerne le Machu Picchu, sa fréquentation touristique devrait encore augmenter, alors que récemment, les autorités péruviennes ont décidé de limiter l'accès du site aux touristes. Le nombre de touristes sera donc limité, ainsi que leur temps de visite. Le tourisme en zone à risque. La carte des zones déconseillées aux voyageurs du Quai d'Orsay a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines, suite à l'enlèvement de deux touristes français au Bénin. Cette carte représente à un instant T les risques encourus par les touristes français en fonction de l'endroit où ils voyagent. Les tour opérateurs sont attentifs à ces indications et se montrent réactifs en cas de changement soudain. Récemment, suite aux attentats qui ont eu lieu au Sri Lanka, certains circuits ont été déprogrammés ou de nouvelles destinations ont été proposées aux voyageurs. Suite à l'enlèvement de deux ressortissants français au Bénin, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait pointé du doigt le manque de prise en considération des informations produites par le Quai d'Orsay. Vis-à-vis des tours opérateurs et des agences de voyage, ces propos étaient injustes, car les destinations les plus dangereuses ne se trouvent pas dans les catalogues. En réalité, là où Jean-Yves Le Drian a raison, c'est au sujet des voyageurs individuels. Demain, rien ne vous empêche d'acheter un billet pour le Sahel, l'Irak ou la Syrie. À partir du moment où votre passeport est en cours de validité, les autorités françaises ne pourront pas vous empêcher de monter dans un avion, à vos risques et périls une fois que vous serez sur place. Toutefois, s'il venait à vous arriver malheur, la doctrine française est d'aller chercher ses ressortissants n'importe où dans le monde, même si cela doit coûter la vie à des membres des forces armées. Voyager dans des zones à risque est donc une responsabilité individuelle, mais il convient de garder à l'esprit les conséquences que cela peut avoir. Ainsi s'achève cette chronique consacrée aux conséquences du tourisme de masse. Comme vous l'aurez compris, voyager et découvrir le monde n'est pas un acte anodin. Mon propos n'est pas de vous décourager de partir à l'aventure, bien au contraire. Je souhaite simplement vous amener à considérer la façon de voyager et les destinations choisies. C'est pour cela qu'est apparue la notion de tourisme responsable ou de tourisme durable. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le tourisme durable est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et des communautés d'accueil. Sur ce, je vous laisse potasser vos guides de voyage à la recherche de votre prochaine escapade. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.